L'artiste de la semaine sur Tropic FM, c'est Babix. David Babin est un chanteur français aimant à jouer avec les mots à la manière des grands poètes. Influencé par des groupes de rap français comme Ministère Amer et des artistes engagés comme Manu Solo et Léo Ferré, Babix écrit ses premières chansons dans son coin avant que son talent ne soit repéré par une maison de disques. Avec sa voix grave et joliment écorchée, il éclot au rayon des jeunes auteurs-compositeurs de la chanson française en 2006 avec un premier album éponyme. Multi-instrumentiste et globetrotteur, Babix est resté sur Crystal Ballroom, son second album, paru le 6 avril 2009. Épaulé par une impressionnante suite de brillants musiciens, le jeune Parisien entraîne l'auditeur dans un tourbillon d'ambiance et d'histoire, de voyages souvent, d'amour ou de société. Babix impressionne à coups de musique élégante et recherchée, d'arrangements complexes et souvent très originaux. Un bel univers d'où on ne sort pas indemne. Il sort avec Kent en concert au Théâtre de Bourg-en-Bresse le jeudi 7 octobre 2010. Babix, c'est l'artiste de la semaine sur Tropic FM.
Pas là, je patine, j'ai le myocarde titanique. Des fois, je me noie au sommeil mécanique. Mes violons prennent l'eau dans ma tête comme un hic. Je suis un ballroom déserté où les robes tournent seules. Je suis pathétique à pleurer. Dis, t'as pas vu ma gueule. Je suis un ballroom déserté où les robes tournent seules. Je dors sur la banquise, je me fiche comme une stalactite. Dors de tes bras, je me brise. Degré zéro est ta limite. Je me titanise, je dérive au soleil en fuite. Solo sous l'eau, cavalier, fondu, fendu, je suis coulé.
Le droit à la retraite à 60 ans doit demeurer, promettait le candidat Sarkozy dans une interview au Monde en janvier 2007 et engagement renouvelé sur RTL en tant que président cette fois en mai 2008. Il est interrogé sur une proposition du MEDEF de passer l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans et demi.
Je dis que je ne le ferai pas pour un certain nombre de raisons et la première c'est que je n'en ai pas parlé pendant ma campagne présidentielle. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris devant les Français. Je n'ai donc pas de mandat pour faire cela. Je me suis engagé à faire et à mettre en œuvre tout ce que j'ai promis. Je n'ai pas parlé des 63 ans et demi.
D'ailleurs, s'il suffisait d'augmenter les impôts pour qu'il y ait la justice sociale, depuis des années qu'on augmente les impôts dans notre pays, gauche-droite confondu, on devrait être le pays le plus juste au monde.
Alors, il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Oui, la France a perdu 100 milliards d'euros en 10 ans. Une fiscalité très avantageuse pour les 10% de la population la plus aisée n'a pas permis à l'État de remplir des caisses soi-disant vides. Et 100 milliards d'euros en moins, ça en fait des paquets de postes de fonctionnaires qui disparaissent, 9 000 policiers compris, et des budgets de la culture se réduisant comme peau de chagrin. Sans parler des subventions attribuées aux salles de spectacle et aux festivals dont le but premier est d'attirer votre curiosité et pas seulement de proposer des têtes d'affiche que les médias, parfois peu recommandables, nous matraquent à longueur de journée. Et pourtant, il suffirait de rétablir la fiscalité des années 70 pour que notre beau pays, la France, ait à nouveau les moyens de ses ambitions. Et oui, il y a 30 ans, les riches payaient beaucoup plus d'impôts et ils avaient quand même des piscines et des grosses voitures. Et il y avait de l'emploi pour bien du monde. Il faut dire que l'autorisation administrative de licenciement n'avait pas encore disparu et les entreprises ne licenciaient que pour raisons économiques. Travailler plus pour gagner plus, que les artistes ont au moins un point commun avec Nicolas Sarkozy, ils aimeraient bien aussi en profiter. Combien d'heures de travail? Et oui, artiste est un métier, en amont pour 1h30 de spectacle payé. Heureusement que le statut d'intermittent du spectacle existe encore et permet de payer ce travail. Mais faut-il encore qu'il ne soit pas menacé? Et je ne suis pas sûr que nos amis du MEDEF n'aient pas envie de supprimer ce qu'ils osent sûrement appeler un privilège. Au terminus des prétentieux, 473e contrôle fiscal ce soir, aime à rappeler que la France est un pays riche et pas seulement en euros. Vous en avez marre qu'on nous prenne pour des cons? Sur Tropic FM, mardi prochain, devant la préfecture, nous serons. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux pour une heure, pour une émission sympathique et chaleureuse, comme le dirait mon ami Gabriel que je salue. Il y a 4 ans et demi, le 8 mars 2007 plus exactement, nous vous présentions un artiste au nom étrange, Babix. La présentation avait plutôt été soignée, jugée plutôt à Babix, de son vrai nom David Babin, est l'un des rares artistes avec San Severino et Rachita à mériter sa nomination au 22e Victoire de la Musique le 10 mars 2007. Son album éponyme est vraiment la révélation de l'année écoulée. Des textes de toute beauté, des musiques fouillées et plutôt variées, un côté Michel Jonas des années 70-80, un autre assurément plus Léo Ferré. Une certaine mélancolie se dégage de tout ça, un garçon, très chaleureux. Et bien 4 ans et demi plus tard, figurez-vous que le Neuilléen de naissance seulement, je vous rassure, se produit ce soir, jeudi 7 octobre 2010 au théâtre de Bourg-en-Bresse. Et bien pour une fois qu'un artiste joue un jeudi, c'était l'occasion rêvée d'inviter dans les studios, enfin au départ dans les studios, à une des plus belles plumes de la chanson française. Il nous racontera sa vision de la vie, tellement éloigné de la nôtre, sauf qu'il la chante avec ses mots. Eh bien, rentrons vite dans son univers, puisque nous avons le plaisir de recevoir, non pas autour de la table, pour notre, mais au téléphone, le sieur Babix. David, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comme ça, on écrit des chansons le soir de l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'est ton côté Neuilly qui a sorti ce jour-là?
Non, mon côté Neuilly, je crois que je l'ai pris et je l'ai laissé au même moment. C'était le jour de ma naissance et je suis très vite parti de cet endroit. Mais par contre, le soir de l'élection présidentielle de Sarkozy, c'est sûr que j'avais des choses à dire ce jour-là et que je pouvais dire qu'en chanson. Et d'ailleurs, juste avant, je me suis fait la réflexion que j'avais jamais entendu Sarkozy si près de mon oreille et ça m'a fait un peu mal aux oreilles.
Oui, mais c'était pour établir certaines vérités. ou contre-vérité, on va dire.
Vous avez bien fait.
Voilà. Bien, alors, tu seras avec nous un petit moment parce que tu as des petits problèmes de voix et il faut que tu la gardes pour ce soir parce que il y a des spectateurs qui t'attendent au théâtre de Bourg-en-Bresse. Tu seras avec nous un tout petit moment et puis nous découvrirons, par contre, ou nous redécouvrirons plutôt ensemble ton univers à travers ton second opus Crystal Ballroom, paru le 6 avril 2009 chez Warner Music, qu'on a découvert en début d'émission avec le morceau, superbe morceau qui s'appelle Crystal Ballroom. Donc à tes côtés, tu devais être à nos côtés, donc ça me fout tout mon speech en l'air,
mais c'est pas grave. Désolé.
Ouais, c'est pas grave. Donc tu répètes à ses côtés, mais pas parce qu'il n'est pas là ce soir. Alors, figure-toi que le 4 février 2010, il a eu l'honneur de présenter ton deuxième album et de te présenter par la même occasion. Alors figure-toi qu'il t'a présenté comme jeune artiste belge, pratiquant le jazz, le saxo, le piano classique, musicien ou comédien. On te retrouve au sein de l'Académie Royale de Belgique dans la pièce de théâtre Fantasio ou dans l'équipe des Globetrotters. À quelle place?
Alors en fait là il y a un petit mélange, mais c'est vrai que j'ai travaillé en Belgique avec l'Académie Royale de Belgique pour théâtre, mais c'était vraiment des cours. Et après j'ai travaillé au théâtre de Chaillot avec un metteur en scène qui s'appelait Claude Stratz pour la pièce Fantasio d'Alfred de Musset en tant que comédien, mais j'étais jeune comédien. Ouais. Et puis j'ai vite réalisé que j'étais assez mauvais en fait là-dedans. Et puis ensuite j'ai participé en tant que chanteur à la troupe des Globetrotters, qui était une troupe de polyphonie.
Et pas de basketteur, hein, c'est rien à voir.
Hein. Non, pas du tout. J'ai abandonné assez vite tout ça. et voilà, et c'était une troupe qui était dirigée par ma mère, qui chaperonnait tout ça. On était une bande d'ados, en fait, qui faisions de la musique. Et voilà.
D'accord. Bon, on te retrouve dans quelques instants après le morceau culte, un morceau que tu connais sûrement. Découvre-le ensemble.
Ok.
Un morceau culte de Tom Waits, ça existe. Hein. Son œuvre est tellement vaste et loin de toute contingence et mode commercial qu'il est difficile et même impossible de retirer un morceau plus qu'un autre. Thomas Alan Waits est un auteur, compositeur, musicien, chanteur, réalisateur, musicien et bruitiste et acteur américain né le 7 décembre 1949. Son travail se distingue généralement par sa voix rocailleuse, hein, sa forte personnalité, sa présence sur scène très théâtrale et l'humour sombre, de mise en monde portée par des textes cyniques. Son premier album date de 1973 et s'intitule Closing Time. Et c'est pour vous dire, si la carrière de Tom Waits est une référence pour beaucoup, dure à la fois dans la durée et dans la qualité. Un personnage hors du commun qui a su également s'entourer de talentueux musiciens ou producteurs, dont le guitariste Marc Riboud et l'ingénieur du son Otz Fritz. Notre invité de ce soir en parlerait mieux que moi, puisqu'il a découvert Tom Waits avec l'album de 2002 Blood Money, doit être extrait Lullaby, comme il décide, mais pas Lullaby, hein, pour les Anglais qui ont ceux qui ont pris l'anglais comme moi à l'école, le morceau culte de ce soir. David, on parle souvent à ton propos, et mon collègue, mon co-animateur Cyril le rappelait tout à l'heure, enfin non, il ne rappelait pas d'ailleurs, il n'est pas là. Bon, ça, bon. De Léo Ferré, ta rencontre avec Tom Waits a changé beaucoup de choses dans ta façon de concevoir la musique.
Alors, en fait, j'ai pas rencontré Tom Waits, mais j'ai travaillé avec les deux personnes dont t'as parlé là il y a quelques minutes.
C'est pour ça, oui.
Otz Fritz qui a mixé mon dernier album, et il y a Marc Riboud qui a aussi participé sur un titre en duo avec moi qui s'appelle Lady L. Et par contre, c'est un artiste qui a compté énormément, parce que d'abord c'est quelqu'un qu'on écoutait beaucoup à la maison quand j'étais petit. Mais j'écoutais ça un peu distraitement, comme un enfant qui écoute la musique de ses parents. Et puis un jour, je suis tombé sur cet album Blood Money, qui m'a fait découvrir tout un monde complètement nouveau dans le son, dans la composition et dans ce qu'on pouvait faire. Justement, tu parlais tout à l'heure de quelque chose de théâtral. Moi, quand j'étais gamin, je voulais vraiment être comédien et musicien. Et Tom Waits, c'est un peu la personne pour moi qui a su mettre du théâtre au sens large du terme dans la musique, et inversement, de la musique dans le théâtre. Et donc, je me suis pris d'amour passionnel pour ce monsieur, ouais, et pour ce qu'il a fait, et ses textes, etc., quoi. Et donc, voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis venu à contacter l'ingé son qui bosse avec lui, et Marc Riboud, et puis j'ai eu l'immense chance de travailler avec eux, quoi. Mmh.
Le maître Tom Waits, sans personne, n'était pas libre à ce moment?
Moi, je même pas cherché, parce que lui, il fait ses projets, et voilà, donc, et puis moi, l'idée, c'était surtout je saurais même pas quoi lui dire, en fait, à ce monsieur, à part lui dire, laissez-moi assister à une séance d'enregistrement, je me ferai tout petit, et je veux voir comment ça se passe, mais sinon, je saurais pas trop quoi lui dire, je crois que tout est dit dans ses chansons, et voilà, quoi.
Tout à l'heure, quand je parlais de qu'il était impossible de trouver un morceau culte, d'abord des définitions de morceaux cultes, un morceau qui qualifierait, Tom Waits, c'est impossible, un morceau
un seul,
un plus qu'un autre, qui a plus marqué que d'autres.
Il y en a un qui est assez célèbre, qui s'appelle Waltzing Matilda, qui est passé, qui a illustré pas mal de films, et qui est dans un album, je crois qu'il est l'album Blue Valentine. Et en fait, ce monsieur-là a eu vraiment plusieurs périodes dans sa musique, et dans cet album-là, il est plus jazz, et etc. Et là, ce morceau-là, il est accompagné de cordes d'un orchestre, et c'est vraiment comme il sait en faire un espèce d'hymne, autant inspiré de ces chansons un peu qu'on croirait venir de la guerre de sécession, ces espèces d'hymnes américains poignants, autant inspiré de comédies musicales qui pourraient être écrites dans West Side Story, par exemple. Et voilà, donc celui-là était assez connu. Sinon, il y en a une qui s'appelle Big in Japan aussi, qui est assez, assez emblématique de lui, je crois.
D'accord, bien. Bon, soir, David Babin, alias Babix, que l'on retrouve au Théâtre de Bourg-en-Bresse ce soir, jeudi 7 octobre, à partir de 20h30. Tu devais être avec nous, mais tu as des petits problèmes de voix, de petits problèmes de santé, mais enfin bon, pour...
de voix, c'est vraiment c'est tout bête, en fait, j'ai pas dormi depuis deux jours, plus les courants d'air, la tournée, tous ces trucs-là, ce qui fait que j'ai plus de voix, en fait.
Et en plus, je suis sûr que tu mets pas de chaussettes la nuit, c'est pour ça aussi, non?
Non, ça, j'ai oublié ma grenouillère.
Aïe, voilà. Donc, on va faire vite pour te laisser te reposer avant le spectacle de ce soir. Donc, tu viens pour la fin de la tournée de l'album Crystal Ballroom, en fait, qui est sorti il y a à peine un an et demi, et puis c'est fini. Enfin, la tournée de l'album.
C'est un peu la nouvelle donne, hein, de la vie des disques, hein. C'est que maintenant la scène est quand même très très liée au disque, et comme maintenant chacun sait, le disque est quand même tombé très très bas dans les ventes, et donc quand on rencontre pas forcément un énorme succès commercial, la tournée généralement s'arrête assez vite après. Nous, on a eu quelque part la chance de tenir un an et demi, mais bon, c'est généralement la durée comme ça de péremption des albums et des tournées. Moi, j'aurais évidemment aimé que ça dure plus longtemps, mais bon, après, justement, ce cher gouvernement a eu la main extrêmement leste sur les subventions des programmations, des programmateurs et des théâtres. Et donc, puisque je suis pas forcément un artiste rentable, il y a pas mal de programmateurs qui, je crois, à leur corps défendant, m'ont dit, malheureusement, tant que je peux pas remplir ma salle avec du Babix, je vais être obligé de continuer à programmer Cœur de Pirate. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui.
Ouais, bon, mais il paraît que les caisses sont vides. Hein.
Comment ?
Il paraît que les caisses sont vides.
Ah bah elles sont, je crois, assez... Enfin, je sais pas de quel côté, mais il y a un côté où elles sont bien vides, ouais, ça c'est sûr.
Mais, par contre, ta tournée s'arrête pas parce que tu continues à jouer sous le nom de Babix, en première partie de la talentueuse Camilla Jordana.
Ben je l'accompagne, je suis pas en première partie, je l'accompagne.
Ah,
je l'accompagne.
En fait. D'accord.
Ouais, parce que j'ai écrit pas mal de chansons sur son dernier album et réalisé une partie de son album. Et c'est une grande rencontre en fait. C'est, je pense, une jeune fille qui va devenir assez grande par la suite et qui est une divine interprète. Ouais. Et j'avais pas envie qu'elle se retrouve après l'expérience qu'on a eue avec le disque qui a été vraiment une rencontre et quelqu'un qui nous a beaucoup touché, autant moi que les musiciens, que mes musiciens. Et donc on n'avait pas envie qu'elle se retrouve tout à coup à ce que ça devienne n'importe quoi. Donc on s'est dit, bon allez, on va continuer l'aventure avec elle et puis voilà, on ne regrette pas quoi.
Donc, cette étiquette de nouvelle star, ça t'a pas gêné du tout ?
Ah bah ça m'a complètement même freiné au départ parce que début en fait quand on m'a parlé d'elle, moi j'étais pas du tout allé écouter quoi que ce soit et puis j'étais évidemment pas allé regarder la nouvelle star. Donc au début j'ai dit non en fait et puis ensuite de fil en aiguille puisque on a pas mal insisté pour que je fasse quelque chose pour elle, j'ai demandé à la rencontrer et puis en la rencontrant et en entendant chanter, tout ça est tombé très vite. D'abord j'ai découvert une jeune femme qui avait 17 ans à qui il serait assez brutal de coller une étiquette, même si elle s'est collée elle-même l'étiquette nouvelle star, mais j'ai réalisé à ce moment-là que à 17 ans on voyait pas les choses forcément de la même manière qu'à 30. Et qu'il y a toute une génération pour qui c'est juste un moyen d'arriver quelque part. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, je crois, est assez conscient d'où elle vient et qui a jamais fait grand cas de cette histoire de nouvelle star. Et puis après, nouvelle star ou pas nouvelle star, quand on a quelqu'un de génial devant soi, on oublie tout ça, quoi.
Ouais. Mais bon, t'es quand même pas tout seul parce qu'il y a aussi Mathieu Bogert, il y a Dorian, voilà, elle. Ça, donc là, ça va, t'es pas tout seul.
Bah voilà, c'est ça. Hein? Et puis c'est plutôt des gens qui sont assez intègres aussi de leur côté.
Et hautement recommandables.
Voilà, exactement.
Hein, voilà. Bon. Avant de se quitter, parce que oui, l'heure tourne et puis il faut que tu reposes ta voix. on t'en retrouve. Tu commences à travailler déjà sur des nouvelles chansons, j'imagine.
Oui, on va en faire deux ce soir d'ailleurs.
D'accord.
Voilà. D'accord. Grande deuxième. On les a faites hier pour la première fois et ce soir sera la deuxième.
D'accord. Donc ce soir, jeudi 7 octobre à 20h30 au théâtre de Bourg-en-Bresse, donc tu seras en face à face avec Ken, mais pas en face à face. En fait, la première partie, c'est toi, c'est quand même toi.
Enfin, la première partie. C'est un double plateau, quoi.
Ouais.
Voilà. Ken, et à la fin, on se bat pas, hein, je vous rassure.
Ken, c'est quelqu'un que tu connais un peu ?
Mais très mal, en fait, pour être tout à fait honnête, même si on a le même tourneur. Mais pour être vraiment honnête, j'écoute assez peu de chansons françaises, mais plutôt de plein d'autres choses. Et malheureusement, je connais assez mal Kent.
Bien.
Mais ce sera l'occasion ce soir de découvrir, justement.
Bien. Eh bien écoute, merci David d'avoir accepté notre mini-invitation.
Merci à toi. Et puis je suis désolé encore une fois de ne pas être sur place.
Tant pis. Tout ça pour la prochaine fois.
Ah bah oui, avec grand plaisir.
Voilà, je laissais bien.
Merci d'avoir surtout passé Crystal Ballroom, il paraît, je crois, toute la semaine.
Ah, toute la semaine dernière, oui, cette semaine c'était Kent. Hein, chacun son tour.
Eh bah oui, tout à fait.
Voilà. On se quitte en musique. Est-ce que il y a un morceau particulier de l'album Crystal Ballroom que tu aimerais que les auditrices et auditeurs redécouvrent ou découvrent, ou c'est moi qui choisis ? D'y voir.
Choisi. Moi, je les aime.
Tu les aimes toutes ou?
Ouais, je les aime bien. Moi, si on peut mettre l'Italo des Sables, peut-être. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu.
Ah, donc c'est la chanson numéro 3, si ma mémoire est bonne.
Ah, ça, je sais plus. J'ai oublié.
Attends, je regarde. Parce que oui, c'est la numéro 3. C'est bien ça. Mémoire, elle n'a pas. Eh bien, écoute, David, merci et puis à très bientôt et surtout bon concert ce soir et bonne voix, hein.
Bah, merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt. Salut. Au revoir.